Europe Soir.
Il est 19h19, c'est l'heure des grands débats d'Europe Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Thomas Piketty est face à Axel de Tarlé et Martial Liou d'Europe 1.
Oui, et c'est un débat ce soir, Olivia, sur un phénomène, le succès, voire le triomphe d'un livre français aux États-Unis, Le Capital au 21e siècle, le livre de Thomas Piketty, qui se classe en tête des ventes des éditoriaux dans la presse américaine, le salue comme le livre le plus important de l'année, voire de la décennie. Et ce best-seller, c'est un gros pavé, c'est le résultat de 15 ans de travail et de recherche sur les inégalités entre les riches et les pauvres. Alors pourquoi ces chiffres provoquent un tel émoi aux États-Unis? On en débat jusqu'à 20h avec vous, Thomas Piketty, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes effectivement face au service économie d'Europe 1, Axel de Tarlé et Martial Liou. Première question, comment ça va les chevilles? Parce que 1 million d'exemplaires, c'est ce qu'on vous prévoit. Il y a des éditorialistes qui ont comparé votre livre avec celui de Tocqueville, Démocratie en Amérique, voire avec Le Capital de Karl Marx. Il y a des prix Nobel qui saluent votre travail. Comment ça va les chevilles?
Bon, moi je suis très content évidemment du succès de ce livre. Et bon, quand on écrit un livre comme ça, c'est vrai que ça se veut un livre lisible, donc je suis content qu'il soit lu. J'essaye de raconter l'histoire de l'argent, l'histoire des revenus, des patrimoines depuis la révolution industrielle dans une vingtaine de pays, d'une façon vivante. Parce que l'histoire de l'argent, c'est plus que l'argent, c'est tous les conflits sociaux, politiques qui vont avec, les représentations dans la littérature de l'argent, des inégalités. Et j'essaye de raconter cette histoire de façon vivante. C'était un livre international, c'était fait pour un public international, ça parle de plus de 20 pays. C'est des données qui ont été rassemblées avec une trentaine de collègues, Tony Atkinson au Royaume-Uni, Emmanuel Saez à Berkeley, Facundo Alvarado en Argentine, Abhijit Banerjee en Inde. Donc c'est un projet vraiment international, d'abord de collègues de données historiques. Puis après, les gens peuvent en tirer les conclusions qu'ils veulent pour l'avenir. On peut être en désaccord complet avec toutes les conclusions que j'en tire pour l'avenir et néanmoins trouver quelque intérêt à la narration historique qui constitue 90% du livre. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien. C'est les gens... Les gens s'intéressent aux inégalités depuis toujours et continueront de se disputer sur la répartition des richesses pour toujours. C'est pas le livre, va pas mettre fin à ça, mais au moins les gens savent un peu mieux sur quoi ils se disputent, quoi, grâce à ce qui est dans le livre. Donc je pense que c'est ça qui intéresse.
Parce que c'est ça qu'on n'a pas encore dit. Un énorme travail, vous l'avez dit, une vingtaine de pays, deux siècles, au moins parfois même plus de chiffres et de données historiques pour arriver à la conclusion que ces derniers temps, depuis le début du XXe siècle, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres.
Oui, enfin, on peut pas résumer juste comme ça, parce qu'il y a des forces qui vont aussi dans le bon sens. Moi, il n'y a pas de conclusion unique. Peut-être la conclusion la plus importante, c'est que l'histoire des revenus et des patrimoines, c'est pas une histoire uniquement économique, c'est une histoire politique. Donc, pour finir, tout dépend des choix politiques, des institutions dans le domaine de l'éducation, des impôts, mais pas seulement. L'éducation, l'inflation, la politique monétaire peut avoir beaucoup d'effets. Bon. Donc tout dépend de ce qu'on en fera. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des tendances, et en particulier, il y a cette tendance que je mets en évidence sur le fait que dans des sociétés de croissance lente, comme le sont les pays riches aujourd'hui, et notamment en Europe et au Japon, avec une très faible croissance économique, une très faible croissance de la population, où le poids des patrimoines accumulés dans le passé retrouve une importance qu'on croyait avoir oublié. Alors on n'est pas tout à fait de retour à Balzac, mais c'est vrai qu'on a une importance du patrimoine qui, pour les générations actuelles, reprend des couleurs qui n'étaient pas là pour les générations de l'après-guerre, qui ont beaucoup plus accumulé par elles-mêmes. Bon, tout simplement aussi parce qu'il n'y avait pas grand-chose à hériter dans les années 50-60, donc pour des raisons tragiques. Mais tout n'est pas noir dans cette évolution. Il y a plein de bonnes nouvelles dans le livre, je dis tout de suite, parce qu'il y a des gens qui ont des lectures apocalyptiques de tout ça, avec lesquelles je ne suis pas en accord.
Tout n'est pas noir. On va en parler avec Axel de Tarlé et Martial Liou. Mais encore un mot sur le succès, parce qu'il faut rappeler, donc, ce livre, il était sorti au Seuil, Le Capital au XXIe siècle, il y a 6 mois, à peu près, un petit peu moins.
Oui, en septembre. Ouais.
Il avait eu un succès important pour un livre français, c'est-à-dire 50 000 exemplaires environ, ce qui est beaucoup. Mais ce n'était pas l'événement que ça a été aux États-Unis. Le vrai succès, il vient d'arriver avec ce classement en tête des ventes d'Amazon. Ça, j'imagine, c'était quand même une surprise. Donc, qu'est-ce qui a déclenché ce succès là-bas?
Je pense que ça résonne avec un souci des États-Unis actuellement sur l'inégalité. C'est-à-dire avec une remontée très forte des inégalités aux États-Unis ces 30 dernières années, beaucoup plus forte qu'en Europe. Donc c'est vrai que le mouvement Occupy Wall Street, c'est pas un hasard si ça se passe à New York et pas à Bruxelles. En Europe, on a d'autres soucis, la réforme de notre État-providence, comment gérer notre dette publique, comment organiser l'Union européenne, la zone euro, sur lequel le livre a aussi des choses à dire. Mais c'est vrai que le souci inégalitaire, il est très fort aux États-Unis, donc le livre résonne par rapport à ça. Et je pense que ce qui intéresse aussi aux États-Unis, c'est que j'essaye de remettre les États-Unis en perspective par rapport à leur propre histoire vis-à-vis de l'inégalité. Les États-Unis ont une tradition égalitaire forte et ont eu pendant longtemps une structure sociale moins fortement inégalitaire qu'en Europe et d'une certaine façon se sont construits contre les sociétés patrimoniales européennes et pendant longtemps, d'ailleurs, ont inventé l'impôt progressif sur les revenus, sur les patrimoines hérités, à des niveaux beaucoup plus élevés que ceux pratiqués en Europe. Et puis après, sous Reagan, sont repartis avec le même enthousiasme qui caractérise ce grand pays dans la direction opposée. Mais bon, c'est une histoire complexe et les retournements futurs, bien malin celui qui pourra les prévoir.